Le 6 novembre 1944, le journaliste résistant Jean Guignebert annonce la couleur pour les mois qui viennent.
Il semble que malgré une certaine lenteur au démarrage, l'œuvre d'épuration soit désormais en bonne route.
Épurer celles et ceux qui ont frayé avec le Troisième Reich, c'est une des missions du gouvernement provisoire de la République française.
Ce n'est pas avoir une âme de bourreau que de souhaiter voir châtier tous ceux qui ont accepté de collaborer avec l'ennemi, qui ont trahi leur pays alors que tant d'autres, parce qu'ils résistaient, étaient pourchassés, traqués, torturés.
Faut parler, Gaston. Y a pas de honte à ça.
Exécutés. Fire !
La colonie des collabos va donc devoir rendre des comptes.
Il y avait un programme qui nous avait séduit. Travail, famille, patrie nous séduisait. C'est ce qui avait déterminé au départ notre engagement.
À la fin avril 1945, paniqués, les cadors de Sigmaringen se sont dispersés au plus vite, espérant ainsi échapper au châtiment et à l'infamie. En France, l'épuration des traîtres a commencé dès l'automne 1944 et les ultras de la collaboration ont bien conscience qu'ils joueront leur peau s'ils se font prendre.
À mort les collabos !
Mais au fond, ils espèrent faire durer au maximum leur cavale, histoire de laisser passer l'orage sur le territoire national. Seul Philippe Pétain est rentré à Paris. Il s'est rendu, bien décidé à justifier son régime de Vichy et à déployer sa fumeuse stratégie du double jeu.
J'ai été le bouclier.
Alors, à quoi ressemble l'épuration populaire en France dès la Libération ? Et qui sont les femmes tondues ? Comment Pierre Laval est venu torpiller la défense de Philippe Pétain ? Et quel fut le sort des collabos de Sigmaringen ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, sereine mais impitoyable, la France accuse. Et les visages de ceux qui croyaient faire de l'Ouest de l'Europe le jardin de loisirs de l'Allemagne victorieuse sont blêmes.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Crépuscule des Bourreaux. Septième épisode, le châtiment des traîtres.
Vous allez ployer le genou en terre en signe de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne.
Tentons maintenant de nous approcher du wagon DSS. Aux fenêtres pendent à côté de drapeaux tricolores les drapeaux noirs marqués des deux SS en forme d'éclair.
Est-ce que ça vous gêne si on dit que en 1941 vous étiez un jeune fasciste ?
Non, ça ne me gêne pas.
Bon.
Les jeunes, après moi, vive le maréchal !
Je parle de Pétain, je parle de Laval.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Et je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France qu'on veut vivre.
Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable.
Ici, Nuremberg.
La France vous demande que justice soit faite.
Le récit débute à la fin août 1944.
Il va où votre train ?
Il se replie.
Ça tombe bien, moi aussi.
C'est-à-dire au moment même où les ultras de la collaboration quittent la France pour se réfugier à Sigmaringen. Au cœur de cet été 1944,
Welcome to our American Liberators.
Les troupes alliées libèrent le pays et les journaux de la résistance dessinent une ligne d'horizon.
Journal Le Républicain du Gard, vendredi 25 août 1944. Le Bosch a été chassé. Le milicien est en fuite ou se terre. Le collaborateur s'efface et essaie de se faire oublier. Patience. Le plus important pour l'instant est de combattre, d'anéantir les éléments ennemis en déroute, de frayer la voie aux armes françaises et alliées qui arrivent. Le reste viendra ensuite. Le reste, c'est-à-dire l'épuration indispensable qui d'ailleurs est déjà commencée.
En effet, pendant que Philippe Pétain et les collabos s'installent au château des Hohenzollern en septembre 1944, l'épuration a déjà débuté en France. C'est ce qu'on appelle l'épuration populaire. Alors d'abord, De quoi s'agit-il ?
Alors l'épuration populaire, elle peut prendre différentes formes. En sachant que la population, à ce moment-là, considère que les collaborateurs, les collaboratrices, ou celles et ceux qui sont perçus comme tels, bien évidemment, se sont mis en quelque sorte en dehors du cadre de la loi.
L'historien Fabien Lostek.
Ils ont entamé un processus de germanisation, ils ont en quelque sorte perdu leur identité de Français et de Françaises, et donc eh bien, on leur dénie leur capacité à avoir des droits. Ils sont expulsés du corps social et ils peuvent également être expulsés du champ du droit. Et donc, il n'est pas étonnant finalement que les violences soient importantes et multiples.
Notre mission principale ici, c'est de faciliter le boulot du préfet quand il arrivera. S'organiser pour châtier les collabos et les traîtres.
Alors ces violences, elles peuvent être sociales, avec un important ostracisme, y compris d'ailleurs symbolique. On empêche les collaborateurs, collaboratrices ou présumés tels de chanter la Marseillaise, de pouvoir arborer le drapeau tricolore lors des festivités de la Libération. Ces violences, elles peuvent être matérielles aussi.
C'est parfait, vous pouvez y aller maintenant.
Avec des marquages, des pillages, des saccages de maisons de collaborateurs. Et elles peuvent être aussi, et peut-être surtout, physiques.
Non, vous n'avez pas le droit de faire ça.
Un milicien qui me parle de droit ? Allez, lui, apprends les siens.
Avec, évidemment, des agressions, des lynchages, des tontes et des exécutions sommaires.
Ah, bravo, Pierre !
Alors on a longtemps appelé ça, Fabien Lostek, l'épuration sauvage. Or, les historiens aujourd'hui préfèrent dire épuration populaire. C'est important. Pourquoi cette différence sémantique ?
La différence est capitale. C'est-à-dire que le terme d'épuration sauvage a été popularisé par Philippe Bourdrel en 1988, qui publie un ouvrage éponyme, donc qui s'intitule « L'épuration sauvage », dans lequel il joue sur les émotions en faisant se succéder les scènes ou les faits tous plus horribles les uns que les autres, sans jamais remettre en contexte cette épuration et en ne proposant finalement aucune explication. Or, cette épuration, elle ne peut se comprendre que si justement on la remet dans le contexte de la multiplication des exactions allemandes, qui sont très importantes lors des derniers mois et surtout des dernières semaines de l'occupation. Et si on le remet, on les remet, ces violences, dans le contexte du passage brutal de l'occupation à la libération. Et le terme pose effectivement plusieurs problèmes. Premier problème, c'est qu'il renvoie à une certaine forme de spontanéité, à la foule vengeresse hein, de la libération qui agit dans l'explosion des sentiments.
Nous avons droit à la revanche, à la vengeance. On a trop souffert.
Vengeons nos morts. Vengeons nos martyrs.
C'est salaud.
Or, l'épuration populaire est rarement cela. C'est-à-dire que l'épuration populaire, elle est souvent annoncée, organisée, coordonnée, voire planifiée par la résistance locale. Souvent d'ailleurs sous l'œil des autorités légales. Donc ça, c'est un fait très important. Le deuxième problème, c'est que finalement l'épuration sauvage renvoie à une certaine légende noire de l'épuration. Dès la sortie de l'occupation, les épurés, et plus largement ceux qui épousent leur cause, font de l'épuration un véritable bain de sang, essentiellement dû aux communistes.
Vous savez, l'épuration sauvage, j'en ai donné des exemples jusqu'à peu près 1946. On exécute encore des gens en 1946, et quelquefois sur leur lit d'hôpital.
Philippe Bourdrel sur France Culture, 1991.
Alors effectivement, les appartenances politiques sont souvent d'extrême gauche.
Quand vous dites plutôt d'extrême gauche, vous pensez aux groupes, anarchistes ou autres, ou bien aux mouvements communistes.
Bon, alors il est bien certain que les FTP de l'époque portent la...
C'est-à-dire les communistes ?
Les communistes, oui, la résistance communiste porte la responsabilité du plus grand nombre des exécutions sommaires.
Donc, l'épuration sauvage, finalement, ça renvoie à la mémoire des vaincus, mais aussi à la mémoire de ceux qui se présentent comme des victimes de l'arbitraire de l'épuration. Et donc, dans ces ouvrages qui parlent d'épuration sauvage, il y a l'idée, finalement, que tous les épurés seraient des victimes. ce terme d'épuration sauvage trace une sorte d'équivalence entre celles qui s'appellent les victimes de l'épuration et les victimes de la barbarie nazie. Donc il y a une espèce de lien qui est fait ici entre les victimes des Allemands et les victimes, entre guillemets, de l'épuration.
Résumons. Employer l'expression « épuration sauvage », c'est alimenter les théories de l'extrême droite, qui aspirent à présenter les épurés de la libération comme des victimes d'une foule vengeresse. Et d'ailleurs, on a souvent entendu dire après-guerre, chez les épurés, que 100 000 personnes avaient été exécutées sommairement à la libération par la résistance communiste.
Les femmes de la résistance, elles ont un message pour toi. À mon commandement. Femme.
Or, c'est faux. Il s'avère que c'est à peu près 9 000 personnes, c'est-à-dire 10 fois moins. Cette violence populaire, qui a nourri les discours d'extrême droite après la guerre, s'est aussi cristallisée autour d'une image qui a colonisé notre imaginaire.
Putain, à genoux !
Et tu me donneras l'adresse de ton passeport !
Celle de la femme tondue.
Hey, chérie, tu veux une carte ?
Avec une première question. Qui a donné l'ordre de tondre les femmes soupçonnées de collaboration ?
Alors c'est très difficile de savoir comment cette pratique apparaît. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de consigne centralisée de la part de la résistance. Il s'agit donc d'une multitude d'initiatives locales, sans que l'on puisse exclure, bien entendu, des phénomènes de mimétisme. Mais malgré cette absence de consigne ou de directive donnée à l'échelle nationale, ce qui est certain, c'est que des tontes ont lieu sur tout le territoire. Aucun espace n'est épargné.
Va chercher Albert avec ses ciseaux et ramener des chaises.
Des tontes ont lieu dans les plus petits villages comme dans les plus grandes villes.
Commencez par la rouquine, elle a une grande gueule.
Et surtout, dans les départements de l'ancienne zone nord comme dans les départements de l'ancienne zone sud. Ce qui démontre que le poids et la durée de l'occupation ne sont pas des facteurs déterminants pour expliquer les tontes, puisque je rappelle que la zone sud est seulement occupée à partir de novembre 1942 par les Allemands. Le second trait, à mon avis, qui mérite d'être souligné, concerne la chronologie. Les tontes débutent dès l'occupation. Les premières tontes peuvent être recensées dès 1942 et elles ont lieu le plus souvent de manière clandestine, de nuit, au domicile des collaboratrices. Et avec ce geste, avec cette action, les résistants lancent en quelque sorte un avertissement aux collaboratrices et aux collaborateurs. Ils souhaitent que la peur change de camp. Mais bien évidemment, le principal pic de tonte a lieu à la libération, durant un temps très précis, entre le départ des Allemands et l'installation des nouvelles autorités légales, c'est-à-dire dans un temps de vacance des pouvoirs. Et donc là, effectivement, on est à la frontière entre la justice et la vengeance.
Voici le témoignage de Madeleine. 81 ans en 2002, mais jeune femme de 23 ans au moment des faits.
Écoutez, c'était en août, mais je ne peux pas vous dire la fin août, quoi. En 44, la maréchaussée nous a accompagnés jusqu'en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors ils nous ont mis sur une chaise, et puis avec la tondeuse, hop. Et puis il y avait toute la foule qui était là, qui hurlait, sale poche, salope. J'ai pleuré, mais ils n'ont pas vu quand j'étais comme ça et que je voyais mes cheveux qui tombaient. Je voyais les cheveux qui tombaient. Et les cheveux, ils les ont mis dans un papier, comme ça, ils me les ont jetés par la figure. J'ai repris le papier, j'aurais foutu par la gueule. Tac, j'ai dit, gardez-les. En souvenir, paf.
Il y avait beaucoup de foule autour.
Oh. Il y avait tout le village, c'était glamour, il y a quoi ?
Oui, c'est beaucoup. Oui, tous les habitants de la.
Et puis c'était l'attraction de la libération. C'était l'attraction.
Précisons que Madeleine était en couple sous l'occupation avec Siegfried, jeune sergent de la Wehrmacht, et qu'ils se sont mariés à Munich après-guerre, en 1949. Une histoire d'amour, donc. Alors, même si certaines d'entre elles ont lourdement fauté, nous allons y revenir, la tonte des femmes accusées de collaboration à la libération et d'une violence inouïe. D'autant que cette pratique ancestrale connaît une résurgence quelques mois plus tard.
Il y a une nouvelle vague de tontes en mai-juin 1945 avec le retour en France des prisonniers de guerre, des requis et des déportés.
200 Français, 200 prisonniers libérés arrivent en ce moment à la gare du Nord à Paris.
Qui crée évidemment une vive émotion qui se retourne en partie contre les collaboratrices ou présumées-elles. Et le phénomène ensuite s'essouffle. La dernière tonte recensée en France a lieu en mars 1946.
Qu'est-ce qu'on reproche à ces femmes, Fabien Lostek ?
Alors, quand vous parlez des femmes tondues encore aujourd'hui, il y a une idée qui revient toujours, c'est que ces femmes ont été tondues pour avoir eu des relations sentimentales ou sexuelles avec les Allemands. Or, comme l'a démontré Fabrice Virgili, qui est spécialiste des tontes il y a 25 ans maintenant, puisque sa thèse a été publiée en 2000, eh bien finalement, il n'y a que la moitié des femmes tondues à qui l'on reproche des faits de collaboration sentimentale. Ce qui veut dire que plus de la moitié des femmes tondues se voient reprocher finalement des faits communs aux hommes. Des faits de délation, avoir travaillé pour les Allemands, avoir adhéré à un parti collaborationniste par exemple. Sauf qu'on voit bien que cette idée, elle peine à imprégner notre mémoire collective. Elle peine à vraiment faire sa place, ce qui montre combien aussi notre mémoire collective, elle est construite sur des représentations de genre. Parce que finalement, la tonte est bien davantage le châtiment sexué de la collaboration des femmes qu'une sanction envers les collaboratrices sexuelles.
La tonte, moi je n'avais que 8 ans et on nous encourageait à aller assister à ce spectacle de la tonte. Donc on nous a fait asseoir devant, on nous a demandé d'être très sages et puis de regarder.
Odette Estorgue, témoin des tontes de femmes à la Libération.
Ils étaient 3-4 gars avec leurs bérets, leurs brodequins, et puis très, très virils. Ils nous faisaient peur. Peut-être que ça choque que je dise ça. Et moi, j'avais peur d'eux.
Est-ce qu'on peut tirer un bilan chiffré de ces femmes tondues entre 44 et 45 ? Pas facile.
Alors, on estime à 20 000 le nombre de femmes tondues en France. C'est une estimation, car il est impossible de recenser toutes les tontes ayant laissé des traces dans les archives à l'échelle nationale, et surtout, car toutes les tontes n'ont pas laissé de traces dans les archives. Dans une région comme la Bretagne, par exemple, on sait qu'entre 320 et 450 tontes ont laissé des traces dans les archives. Mais il est plus probable qu'entre 1000 et 2000 femmes aient été tondues dans cette région. Alors je rappelle d'ailleurs que les tontes sont essentiellement ou presque administrées à des femmes. Sur son corpus, Fabrice Virgili, effectivement, estime le nombre de femmes tondues à 20 000 pour seulement une cinquantaine d'hommes.
Ces quelques hommes tondus à la Libération sont souvent les maris de celles qu'on accuse de collaboration. Ils sont perçus, dans cette société patriarcale, comme des hommes faibles, n'ayant pas su tenir leurs femmes au sein du foyer. Par ailleurs, la tonte des femmes à la Libération s'accompagne parfois de diverses humiliations.
Mélinée Manouchian, dans Manouchian, 1974. Près du métro Danube, une foule suivait une femme entièrement nue. Elle avait le crâne rasé et sur ses seins, deux croix gammées tatouées à l'encre de Chine. Je tremblais à l'idée que cette femme ne pourrait peut-être plus se dévêtir devant un homme sans exhiber la honte sur le corps. Sur le dos, elle avait tatoué également un portrait d'Hitler.
Alors la tonte n'est pas exclusive d'autres châtiments. Une femme peut avoir été tondue, marquée effectivement, avec des signes, notamment la croix gammée peinte sur les corps des femmes tondues. Des femmes tondues ont pu également être violentées, être exécutées ensuite sommairement. Et des femmes tondues ont ensuite pu aussi être internées de manière administrative, être jugées, être emprisonnées. C'est-à-dire que épuration populaire et épuration légale, en l'occurrence, peuvent se cumuler. Et donc on a parfois une double, voire une triple sanction.
Vous avez commencé à l'évoquer, Fabien Lostek, avec finalement une sanction très genrée. Quelle symbolique on peut déceler derrière ce geste de la tonte d'une femme à la Libération en France ?
Très clairement, à la Libération, le corps des femmes ayant collaboré est un enjeu. En coupant des cheveux qui sont le symbole de la séduction, la volonté des hommes, c'est bien d'humilier les collaboratrices en les privant, provisoirement, de l'expression de leur féminité. Plus largement, il s'agit de déposséder ces femmes de leur propre corps, sorte de prolongement du territoire national, tout en le purifiant parce qu'il a été souillé par la collaboration. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des femmes tondues qui sont passées sous l'eau de la fontaine, du village ou du quartier. Donc on voit bien que la dimension purificatrice, elle est ici centrale. Donc finalement, au moment où les femmes obtiennent leur droit de vote, il leur est rappelé que leur corps ne leur appartient pas vraiment. Et surtout, il faut souligner que cette honte participe à la réaffirmation d'une virilité qui a été mise à mal par la défaite de 1940 et bien entendu par 4 années d'occupation. Donc les tontes ont lieu durant un moment de crise du masculin. Et ça, il faut évidemment le souligner.
Mon père était venu me voir. Oh là là, quand je l'ai vu rentrer là, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?
Madeleine, 2008.
Il a pleuré, mais pleuré. Je me rappelle, je lui disais, pleure pas papa, ça va. Pleure pas papa, ça va repousser.
Nous arrivons maintenant au printemps 1945. Nous sommes précisément le 10 mai.
Paris a vécu aujourd'hui sa 2e journée de paix. Une vraie journée de fête, de chaleur, de soleil. Il semblait que le temps ait voulu lui aussi célébrer la victoire en se faisant le plus beau du monde.
La guerre est donc finie. C'est le retour de la paix. Et l'épuration populaire a été remplacée par une épuration judiciaire. Mise en place par les institutions républicaines, comme l'expliquait Pierre-Henri Tedjen, ministre de l'Information, en mai 1945.
La justice suit son cours dans l'ordre et la légalité. Le gouvernement mènera avec rigueur et jusqu'à son terme l'accomplissement de ce dur devoir national.
À l'heure où les collabos de Sigmaringen se sont éparpillés un peu partout en Europe pour échapper à la justice française. Quels sont les enjeux de cette épuration légale pour le pouvoir gaulliste ?
Alors pour De Gaulle, il est clair que l'épuration ne peut s'appliquer que par le haut, afin de répondre à une double fonction, d'une part de régulation des violences, de réponse finalement à la forte demande sociale d'épuration, mais aussi de légitimation des autorités républicaines. Pour le dire autrement, de retour à l'ordre républicain.
J'ai été mandaté par le général de Gaulle en tant que commissaire régional de la République chargé de l'épuration, avec pour mission d'empêcher tout tribunal d'exception d'exercer dans l'illégalité et l'anarchie, pour que la justice soit rendue. La justice et non la vengeance.
L'épuration a également exercé une fonction de sécurité, en empêchant que les adversaires de la République et de la Résistance ne puissent relever la tête et menacer le processus de libération qui ne s'achève, il faut le rappeler, qu'en mai 1945 avec la reddition des poches de résistance allemandes. L'épuration a bien entendu également rempli une fonction de réparation et de justice, même si c'est de façon imparfaite, au bénéfice des victimes, des collaborateurs, comme de la nation tout entière. Et enfin, et peut-être un des aspects les plus importants, l'épuration a exercé une fonction identitaire et de reconstruction nationale. C'est-à-dire que, à la Libération, on assiste à l'union de la majorité des Français face à l'exclusion d'une poignée de misérables, comme le disait le général de Gaulle, qui ont sali, qui ont souillé, qui ont trahi la France. Et donc, en épurant, on peut espérer fonder une nouvelle communauté de destin.
C'est la France tout entière qui a résisté à l'ennemi.
Pierre-Henri Tedjen, mai 1945.
Nous avons eu quelques poignées de traîtres et de misérables. 30 ou 40 000, 50 000 au grand maximum. Ce sont ceux-là qui ont des comptes à rendre à la justice.
Cette mythologie gaullienne de la France résistante fut peut-être une nécessité à l'époque pour éviter une forme de guerre civile, mais elle sera légitimement mise à mal par les historiens à partir des années 1970. La poignée de collabos français fut en réalité beaucoup plus conséquente. Ceci dit, il faut avoir en tête qu'à la Libération, la question de la culpabilité fut très complexe pour beaucoup de Français. Une large majorité fut d'abord maréchaliste en 1940.
Et encore maréchaliste, c'est même pas le mot. Et ils ont cru à l'utilité de la collaboration et du gouvernement de Vichy. Certains y croient encore. Moi, je crois encore dur comme fer à ce que j'ai cru sous l'occupation. J'en ai pas honte.
Une erreur de jugement qui s'est ensuite transformée en attentisme pendant 5 ans, provoquant au printemps 1945 une incompréhension et un malaise au sein de la société.
D'un côté, il y a tous ceux dont je fais partie qui n'osent plus afficher leurs opinions, et puis de l'autre, ceux qui affectent de croire que ces idées n'ont jamais existé. On réduit des millions d'individus à une poignée de vendus, c'est un mensonge colossal. À en croire les journaux, il n'y a que des résistants. Mais la vérité, c'est qu'il y en a un bon nombre qui ont tourné leur veste à la Libération. Voilà la vérité.
Pour juger les cas les plus graves de la collaboration, le gouvernement provisoire de la République a mis en place 3 juridictions. La Chambre civique, la Cour de justice et la Haute Cour de justice.
L'audience est ouverte.
Alors quel bilan chiffré peut-on dresser des procès de l'épuration des collabos français à la Libération ?
30 000 ont été acquittés, 95 000 ont été condamnés à la dégradation nationale, que ce soit de manière principale ou secondaire, ce qui en fait la peine la plus prononcée par la justice de l'épuration, et 40 000 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement, soit la réclusion, la prison ou les travaux forcés. Et maintenant, si l'on prend en compte les cours de justice et les tribunaux militaires, eh bien, on sait que près de 8000 individus ont été condamnés à mort à la Libération, dont 1500 ont été exécutés. Et parmi ces 1500 personnes exécutées, on trouve 46 femmes. 46 femmes, c'est-à-dire 3% des exécutés légaux. Alors dit comme ça, le pourcentage peut sembler ridicule, marginal, mais en réalité, pour trouver autant de femmes exécutées en si peu de temps, eh bien, il faut remonter à la Révolution française.
Quels sont les délits qui ont conduit ces 46 femmes à être condamnées à mort devant les cours de justice à la Libération ?
Les condamnées à mort se voient principalement reprocher des délations, des faits de collaboration militaire et aussi, dans une moindre mesure, des faits de collaboration politique.
C'est pour Monsieur Müller.
Einverstanden, Fräulein Schoflo. Auf Wiedersehen.
Au revoir. Ils sont serviables et ponctuels. Si on avait été comme eux, on aurait gagné la guerre. Zut, je me suis cassé un ongle.
Mais toutes ou presque ont pour point commun, tout d'abord d'avoir provoqué la torture, la déportation ou l'exécution d'un ou de plusieurs individus, certaines femmes condamnées à mort ayant elles-mêmes fait usage de la violence, et ensuite d'avoir commis ces faits durant les derniers mois et les dernières semaines de l'occupation, c'est-à-dire dans un contexte très tendu, marqué par la multiplication des exactions allemandes et l'intensification de l'épuration populaire. Donc non seulement ces femmes ont commis des faits très graves, mais ils sont dans toutes les mémoires une fois que la libération est advenue.
Madame Deschamps.
Oui.
Vous êtes recherchée par la préfecture de Dijon.
Je vous en prie. Non, non.
On dit que vous avez dénoncé des gens. On dit que...
Ils vont me tuer. Vous comprenez pas, ils vont me tuer.
Alors, en quel point les stéréotypes ont pu jouer dans les condamnations à mort de ces femmes par la justice à la libération, Fabien Lostek ?
Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de nier les faits très graves que se voient reprocher ces femmes condamnées à mort. Mais force est de constater que les stéréotypes de genre jouent un rôle central. Il ne faut pas oublier que la justice est alors rendue uniquement ou presque par des hommes. Tous les magistrats sont des hommes, puisque la magistrature s'ouvre aux femmes à la libération, seulement à la libération, et parmi les jurés des cours de justice, on enregistre seulement 10% de femmes. Donc c'est-à-dire que la justice est une justice rendue essentiellement par des hommes. Et là, on constate effectivement que les normes morales jouent, si ce n'est un rôle aussi important que les normes légales, du moins un rôle très important. Ce qu'on ne retrouve pas dans les dossiers de procédure des hommes, à moins que ces hommes soient suspectés d'homosexualité. Alors, ces femmes sont souvent présentées comme des présumées coupables, c'est-à-dire comme des femmes qui méritent d'être punies parce qu'elles ont enfreint les normes de genre. Autrement dit, il ne suffit pas que la collaboratrice ait trahi son pays, il faut aussi qu'elle soit un être hors norme. Et dans le même temps, ces femmes sont rattrapées par ce que les historiens nomment le stéréotype de la collaboratrice. C'est-à-dire que on reproche à ces femmes d'avoir pris du plaisir avec les Allemands.
Tu faisais plus la fière quand tu sortais en ville avec ton SD, au théâtre ou dans les restaurants. Je te revois encore l'année dernière avec ton bison pendant qu'on se caillait sans chauffage. Et tu bouffais, et tu riais.
Un plaisir qui peut être alimentaire, au temps où la majorité de la population souffrait des pénuries. Un plaisir qui peut être festif, mais aussi un plaisir sexuel. Et dès lors, dans les dossiers de procédure, eh bien, on voit se multiplier les références à la sexualité de femmes qui seraient de très mauvaise conduite ou de très mauvaise moralité.
Traînons là où j'y vais, cette traînée. On va l'éteindre ton feu au cul. Pendons-la par les pieds.
Mais pourquoi pas brûler vive?
C'est ça, comme on tend des sorcières.
Pour le dire simplement, à la Libération, il y a deux images qui se font face. D'un côté, on va trouver l'image de la résistante, qui est une bonne mère de famille, une bonne épouse et une bonne ménagère, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que la résistance, oui, elle a résisté, mais elle a continué à s'occuper des siens. Alors que la figure de la collaboratrice, c'est exactement l'inverse. La collaboratrice, les collaboratrices, ne peuvent avoir été que de mauvaises épouses, de mauvaises mères et de mauvaises ménagères. Et ça, c'est très intéressant, ça nous montre vraiment que le jugement des collaboratrices dépasse les simples faits de collaboration. Et comme ces femmes sont présentées comme de mauvaises épouses, de mauvaises mères et de mauvaises ménagères, eh bien elles sont très fréquemment également décrites comme des femmes monstrueuses. Et là, ce qui est assez déstabilisant d'ailleurs pour l'historien, on retrouve fréquemment l'image de la sorcière qui revient dans les dossiers de procédure. Donc il y a une dynamique de pathologisation et de déshumanisation de ces femmes, ce qui permet d'occulter aussi leurs véritables motivations, qui peuvent être politiques.
Par ailleurs, au printemps 1945, le journaliste résistant Jean Guignebert a bien conscience que les accusés de collaboration les plus cyniques vont tenter de démontrer face à leurs juges qu'ils ont joué un double jeu durant l'occupation.
Il n'y a pas un collaborateur, si modeste soit-il, ou si haut placé qu'il ait été, qui n'ait à verser au débat qui le concerne quelques témoignages d'une activité prudente en marge de la résistance.
Si on vous dit du mal de moi un jour, n'en croyez rien. Et sachez que j'aurais tout fait pour sauver des tas de gens.
Et le plus curieux, c'est que ce n'est pas toujours faux. On conçoit que les juges soient tentés d'établir une sorte de balance entre les fautes et les mérites, et que, si les mérites sont évidents, ils atténuent la sanction. Évidemment, cela constitue une sorte de prime à la contre-assurance qui n'a pas beaucoup de qualité morale, puisque cela revient à dire à ceux qui ont misé sur les deux tableaux, à ceux qui ont eu l'astuce de se préparer des alibis qu'ils ont en somme, fait une assez bonne affaire.
Alors, malgré la complexité de la société à la Libération, une société frappée par 4 années de guerre civile, alimentée par le régime de Vichy, peut-on affirmer que la justice est passée en 1945?
L'épuration ayant été pensée pour toucher le plus grand nombre, elle a été un phénomène social massif, concernant de près ou de loin près d'un demi-million de Français. Donc on est très loin de la poignée de misérables évoquée par De Gaulle. Et d'autre part, l'épuration dans sa phase légale, j'entends, n'est pas si mal passée au vu du contexte de l'époque. Il y a bien entendu eu des injustices, des inégalités dans le temps et dans l'espace qui étaient inévitables au vu du contexte. Mais si l'on regarde le processus dans son ensemble, la justice est bel et bien passée.
Je vous l'avoue, en pensant à cette audience qui va commencer, je suis ému comme lorsqu'on assiste à une naissance, ou plutôt une renaissance, celle de la démocratie. Vive la République, vive la France.
Revenons à présent à Sigmaringen avec une question essentielle. Quel fut le sort judiciaire pour les huiles de la collaboration ? Commençons par Pierre Laval. Souvenez-vous. Le 2 mai 1945, Laval est parvenu à s'exfiltrer vers l'Espagne sous l'égide du général Franco. Mais depuis la victoire des Alliés le 8 mai, l'ancien chef du gouvernement de Vichy est devenu un colis encombrant pour les Espagnols. Et pour ne pas froisser les Américains, Franco a décidé de placer Laval en résidence surveillée au fort de Montjuïc, forteresse qui domine la rade de Barcelone. C'est l'historien Renaud Meltz que nous retrouvons au château de Sigmaringen qui nous raconte la suite.
Laval, dans ce pavillon de la forteresse de Montjuïc, qui a été aménagé en urgence spécialement pour lui, est quand même dans une sorte de prison. C'en est fini des longues promenades dans la campagne autour de Wilfingen. Et une espèce de résidence administrative surveillée et une espèce de prison dorée. Certes, les gardiens sont aimables, certes, les victuailles raffinées du Ritz viennent régulièrement, des fleurs, on fait quelques jeux de société dans cette petite colonie française très, très soudée. Mais Laval se morfond, il maigrit.
Pierre, des rognons aux champignons. Allez!
Il dit « j'aimerais bien un peu moins de foie gras et un peu plus de liberté ». En fait, plus rien ne passe, son ulcère le fait souffrir. Et Laval, finalement, ne peut plus rien faire d'autre que d'écouter obsessionnellement la radio, les stations françaises qui captent avec leur fameux poste de TSF.
« L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. »
Et dans ce contexte, la question de savoir si on va tenir longtemps dans cet inconfort moral et cet inconfort politique, puisque les Espagnols font bien sentir que Laval est indésirable, se pose au regard des nouvelles qui viennent de France et qui montrent la tension politique et les premiers procès qui sont impitoyables.
En effet, la justice de l'épuration est donc en marche. Et le 23 juillet 1945 s'ouvre à Paris le procès des procès.
Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre. Trop petite salle pour un si grand procès. Pour ce procès où l'homme qui ose encore se dire chef de l'État va répondre des années pendant lesquelles la France a été occupée, occupée aussi par lui.
Contrairement à Pierre Laval, Philippe Pétain est rentré en France fin avril avec l'espoir de se justifier devant ses juges. Depuis Barcelone, Pierre Laval écoute les comptes rendus du procès à la radio. Et au fil des jours, il acquiert une conviction.
Laval est convaincu qu'il peut retourner l'opinion publique comme avocat qui sait plaider, comme homme politique qui a retourné des situations très compliquées, qui a sauvé sa majorité à plusieurs reprises. Et puis avec cette espèce de superstition qui lui fait croire qu'il ne mourra pas de mort violente, comme lui a prédit son astrologue Maurice Privat, Laval pense que finalement il faut rentrer s'expliquer. Il n'arrive pas à se résigner à être le symbole de l'humiliation de la France et être l'homme le plus détesté de France. Il est convaincu qu'il saura justifier sa politique et la défendre devant l'opinion publique s'il arrive à avoir un procès à peu près équitable.
Après quelques tergiversations, Pierre Laval, encouragé par son épouse, choisit de rentrer en France pour se défendre. Le 31 juillet 1945, son avion atterrit en Autriche, où il est remis aux autorités américaines, qui s'empressent de le livrer aux Français.
Vous descendez là.
Le 3 août, Laval est conduit au palais de justice, sur l'île de la Cité, à Paris.
Je vous en prie, si.
Il doit déposer en tant que témoin au procès de Philippe Pétain. 5 ans après avoir liquidé la République, les deux hommes se retrouvent dans une salle d'audience.
Laval, l'avocat des mauvaises causes, va plaider le dossier Pétain. Le procès Pétain, dit-il, c'est un peu le mien. Et c'est le sien, en effet. Pétain, Laval, les deux noms sont liés. Liés par l'assassinat de la République. Liés par Buchenwald et Dachau. Liés par la mort des patriotes. Liés par les fameux mots qui ont fait la gloire misérable de Vichy. Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Finalement, Laval est un peu la star de ce procès Pétain qui s'embourbe, qui déçoit un peu l'opinion. Et Laval apparaît, il surprend tout le monde par sa maigreur, il est méconnaissable, il a blanchi, il est tout efflanqué. Et là où il était grassouillet et luisant, c'est un vieillard finalement, émacié. Et puis il intéresse l'opinion parce qu'il est très combatif.
Je vais répondre à la question précise que vous me posez.
Et qu'il s'inscrit tout de suite en faux par rapport au système de défense des avocats de Pétain. Le système de défense de Pétain, il est habile et il va d'ailleurs un peu coloniser l'opinion publique française après la guerre et pendant longtemps, on peut dire jusqu'au renouveau historiographique de Paxton. Ça consiste à dire que Pétain faisait semblant de faire une politique de collaboration pour amortir la dureté de l'occupation, pour protéger les Français, mais il laissait faire pendant ce temps-là des menées de défense nationale sur le territoire et surtout il était le bouclier qui laissait l'épée de Gaulle agir depuis Londres et préparer l'avenir.
Soyez assurés que le jour où l'on jugera les Pétain, les Laval et leurs complices, ils auront tout un lot de soi-disant bonnes actions à mettre dans la balance avec laquelle on pèsera leur destin.
Dès le mois de novembre 1944, le journaliste résistant Jean Guignebert fit preuve d'une grande clairvoyance sur la future stratégie de défense de Philippe Pétain.
On nous racontera qu'on a voulu rouler les Allemands, que dans bien des cas on y a réussi, qu'on a sauvé des hommes et des femmes de la déportation, qu'on en a fait libérer d'autres. On nous prouvera, on essaiera de nous prouver que pas un instant l'on a cessé de croire à la victoire des Alliés, que si l'on a fait quelques concessions à l'ennemi, c'était pour mieux tromper sa confiance et pour tenir davantage de lui.
J'ai toujours résisté aux Allemands. Je ne pouvais être que favorable à la résistance. En tant que chef de l'État, je ne pouvais l'approuver publiquement en présence de l'occupant.
Il y a dans tout ce maquignonnage quelque chose d'assez répugnant. À tout prendre, j'aime mieux un traître qui a eu le courage de ses opinions qu'un traître qui, par lâcheté, s'est donné quelques instants par jour et en se cachant soigneusement des allures de patriote.
Laval détruit complètement ce système parce que c'est un système qui ne correspond pas d'après lui à la réalité et ça l'empêche de développer sa propre défense. Sa défense, c'est-à-dire que la politique de collaboration était la meilleure et même la seule possible. Il n'y avait pas de double jeu. La politique de collaboration n'était pas un leurre qui visait à gagner du temps face aux Allemands. Il s'agissait d'adhérer sincèrement à un nouveau projet d'une Europe nouvelle, pacifiée, avec une Allemagne forte militairement, que la France devait aider dans la mesure de son possible à protéger l'Europe du communisme. Eh bien, cette défense se cristallise sur quelques points symboliques. Alors d'abord, l'entrevue de Montoire. Laval revient sur cette entrevue d'octobre 40 en disant qu'il n'a jamais eu à forcer Pétain, que Pétain est venu librement et qu'il a adhéré sans restriction mentale à cette politique. Et qu'ils ont constamment ensuite, lorsque certains diplomates ou certains fonctionnaires français posaient la question de savoir s'il fallait nouer des contacts avec les réseaux de résistance, avec les gaullistes, ils ont toujours défendu l'idée qu'on jouait la collaboration sans réserve mentale. Puis l'autre point de cristallisation du procès Pétain où Laval défend sa politique et implique Pétain, le maréchal Pétain, dans la sienne, c'est de dire que la fameuse phrase qu'il a prononcée « Je souhaite la victoire de l'Allemagne » n'a pas été prononcée, contrairement à ce que Pétain a dit, dans son dos ou contre lui, mais avec son accord. Il y a là un point de discussion, d'historiographie, on va dire, entre les Pétains et les Laval, le camp Pétain et le camp Laval. Et le président du tribunal demande l'arbitrage d'une façon un peu comique, dans une lettre presque déférente à Rocha, qui lui s'est réfugié en Suisse et qui a incarné finalement la permanence des affaires étrangères françaises pendant l'occupation. Et Rocha est bien embêté de devoir arbitrer, mais il donne raison à Laval en disant, en effet, Pétain était au courant, il y a même une discussion, puisque dans une première version du discours, Laval ne disait pas « je souhaite la victoire de l'Allemagne », mais « je crois en la victoire de l'Allemagne ». Pétain lui avait rétorqué « vous n'êtes pas un militaire, vous n'avez aucune compétence pour anticiper telle ou telle victoire militaire ».
Monsieur le maréchal,
écoutez, vous n'avez qu'à écrire « je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Ça, vous pouvez le dire, c'est votre opinion, personne ne vous fera de procès pour ça.
Donc Laval a défendu l'idée que Pétain avait suivi la même ligne politique que lui, la collaboration sans arrière-pensée. Les défenseurs de Pétain vont rester sur leur ligne d'un double jeu, mais Laval va crânement jouer ce jeu qui ne va pas lui servir pendant son propre procès.
Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort.
Philippe Pétain est condamné à mort le 15 août 1945, puis gracié par De Gaulle, avant de mourir en détention sur l'île Dieu le 23 juillet 1951.
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.
Quant à Pierre Laval, après une instruction judiciaire indigne de la République, il est jugé à la va-vite et condamné à mort le 4 octobre 1945. À quoi ressemble ces derniers jours.
Pierre Laval, 13 octobre 1945. Je n'accepte pas la sentence. Je n'accepte pas la souillure d'une exécution, puisqu'il s'agit d'un meurtre. J'entends mourir à ma manière, par le poison, comme les Romains. C'est mon dernier acte pour protester contre la sauvagerie.
Seigneur. Laval va essayer de garder une forme de prise sur sa vie jusqu'au bout en se donnant la mort. Et lorsqu'on trouve en train d'agoniser le matin de son exécution, on lui fait subir plusieurs lavages d'estomac pour le réanimer juste assez pour que la justice passe. Et donc finalement, il y a quelque chose de tellement misérable dans sa dernière nuit où il passe son temps à ne pas savoir si c'est sa dernière nuit, à écrire successivement aux deux grands amours de sa vie, Eugénie et José, à espérer qu'il saura mourir dignement comme un Romain et se donner la mort. Puisqu'il a lu à Sigmaringen et à Wilfflingen du Plutarque et qu'il a admiré la façon dont les Romains se donnaient la mort. Voilà, même dans cet ultime moment de prise sur son destin où il se donne la mort, eh bien, les autorités veulent montrer que la justice va passer.
Levez-le, levez-le !
Donc on ranime difficilement cet homme, on est obligé de faire des incisions sous les pieds pour voir s'il est encore vivant, donc il peut même plus se chausser pour aller jusqu'au peloton. Il laisse des traînées sanguignolantes dans les couloirs de la prison de Fresnes. Les soldats qui doivent l'exécuter, ils sont habillés de briques et de broc avec des uniformes moitié anglais, on les fait boire, donc ils sont un peu sous.
15 octobre 1945, 12h32, Pierre Laval l'a expié.
Parmi les compagnons de route de Pierre Laval jusqu'à Sigmaringen, on trouve Jean Lucher, sa femme et leur fille Corinne. Une famille collaborationniste dont la cavale s'arrête en Italie.
Son procès ne fait pas partie des premiers procès et on peut dire que, en général, les premiers se passent le plus mal. Donc il peut espérer que ça va se passer pas trop mal pour lui. Et finalement, ça se passe très mal parce qu'il a écrit des articles qui sont tout à fait accablants. Et sa responsabilité politique et morale, qu'on pourrait croire un peu amoindrie par le fait qu'il se présente comme un intellectuel pacifiste qui n'était pas un nazi, d'abord est contredit par certains éditos qui dit qu'il est favorable à l'Allemagne nazie sans aucune réserve. Et puis cette image d'homme un peu véreux, d'homme vénal, qui n'a pas forcément embrassé la collaboration par idéologie, par amour du nazisme, mais par vénalité, ne lui sert pas. Au contraire, ça le dessert plutôt. On en fait un escroc qui ne peut pas se vanter d'avoir une forme d'honneur idéologique. Et finalement, il est donc condamné à mort et fusillé.
Formez le peloton. On joue. Feu.
En 1946, Corinne Lucher, l'ancienne vedette de cinéma, doit elle aussi répondre de ses choix durant l'occupation.
La salle d'audience de la chambre civique était comble hier lorsque le greffier annonça « Affaire Lucher, Rosita, dite Corinne ».
La fille de Jean Lucher est condamnée à 10 ans d'indignité nationale. Elle meurt de tuberculose le 22 janvier 1950. Enfin, avec l'historien Henri Rousseau, faisons un tour d'horizon des différents destins des ultras de la collaboration qui sont venus se réfugier jusqu'à Sigmaringen.
Oui, le bilan est assez terrible. Qui dit bien la mesure de ce qu'a été Sigmaringen ? Pétain, jugé, condamné à mort et gracié, il va finir ses jours à l'île Dieu. Pierre Laval est condamné à mort et fusillé le 15 octobre 1945. Abel Bonnard, Maurice Gabol, qui faisait partie des ministres passifs, Jacques Guérard et Charles Rochat, qui étaient des proches de Pierre Laval, sont condamnés à mort par contumace. La plupart réussiront à s'exiler. En général, les lieux d'exil, c'est l'Espagne ou l'Amérique latine. Pour le gouvernement, enfin la commission gouvernementale, Fernand de Brinon est condamné à mort et fusillé le 15 avril 1947. Jean Luchaire est condamné à mort et fusillé le 22 février 1946. Joseph Darnan est condamné à mort et fusillé le 10 octobre 1945. Marcel Déard va réussir à s'évader en Italie. On sait qu'il est mort à Turin, dans un couvent, en 1955, de sa belle mort. Céline a poursuivi sa fuite. Il est parti vers le Danemark et il va rentrer en France après 6 ans d'une forme d'internement en 1951 et ne sera pas inquiété. Du côté de la milice, la plupart des chefs de la milice ont été arrêtés. Jean Bassompierre, Max Nipping, Raymond Clémoz, Joseph Lécussan seront exécutés en vertu de l'article 75 du Code pénal d'intelligence avec l'ennemi. Léon de Grelle, dont on a vu qu'il venait exprimer sa fraternité à ses amis français, est lui aussi condamné à mort en Belgique, mais il va échapper à la condamnation et il finira ses jours en Espagne. L'un des derniers, c'est Jean-Hérol Paqui. Alors lui, c'était la voix de Radio Patrie, de Doriot, condamné à mort, fusillé le 13 octobre 1945. Alors, bon, c'est une énumération un peu macabre. Elle ne reflète pas forcément ce qu'a été toute l'épuration. Mais elle dit quand même quelque chose de précis, c'est que tous ceux qui se sont enfuis et qui ont ici tenté de recréer un gouvernement, une entité ou je ne sais quoi, ça a été évidemment une circonstance aggravante, si tant est qu'on avait besoin d'avoir des éléments à charge en plus.
Pour finir, écoutez bien les mots de Françoise Luchaire, l'épouse de Jean Luchaire, elle aussi exilée à Sigmaringen, et qui tentait d'amoindrir la responsabilité de son mari en 1994.
La collaboration de Jean Luchaire n'était que sur le plan idéologique, c'est-à-dire avec les intellectuels, ceux qui pensent.
Oui, mais l'idéologie, sous l'occupation, c'était le relais de la machine de guerre allemande.
Là, c'est pour ça que je m'arrête. C'est pour ça que je m'arrête. Je suis incapable de répondre. C'est là où je suis arrêtée. Qu'est-ce que je peux dire?
Oui. Lorsque vous étiez détenu à la Libération, vous avez voyagé dans des wagons plombés. Aujourd'hui, vous savez que des Juifs ont été transportés dans des wagons plombés. Ah. Est-ce que vous ne pensez pas que les collaborateurs ont participé à divers degrés à cette déportation, à ce massacre des Juifs?
Je ne peux pas répondre. Arrêtez petit pour que je réfléchisse.
Réfléchissez.
En conclusion de ce 7e épisode, retenez d'abord que la violence de l'épuration populaire en France au moment de la libération ne peut se comprendre qu'au regard du contexte de l'époque, et que la légende noire des 100 000 exécutés par la résistance est une manipulation de l'extrême droite qui s'est propagée très longtemps après la guerre. Par ailleurs, malgré les difficultés, malgré les frustrations et malgré certaines erreurs, on peut considérer que la justice est passée en France à la libération.
Messieurs, la cour.
Quant aux ultras de la collaboration réfugiés à Sigmaringen, rares sont ceux qui ont échappé à la condamnation à mort. Et le châtiment des collabos français fut le prélude d'un procès mondial.
Ici Nuremberg, vous avez face à vous, démunis de toute gloire, sous la lumière crue des rampes, les visages des criminels de guerre.
Alors, qu'a-t-on réellement jugé au procès de Nuremberg? C'est l'horizon du prochain épisode. Le crépuscule des bourreaux, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Elsa Lepoivre, de la Comédie-Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Fanny Petit et Alice Doucerin. Documentation sonore, Frédéric Martin. Prise de son à Sigmaringen, Gilles Gallinaro. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, le procès des damnés. Le Crépuscule des bourreaux est un podcast original de France Inter.